À l'Île-Dieu, du 6 au 10 octobre dernier, le phare de la Petite Foule subissait d'importants travaux, dirigés par la DIRMNAMO, la Direction Interrégionale de la Mer Nord-Atlantique-Manche-Ouest, dont Éric Vassor est le directeur adjoint.
Alors les directions interrégionales de la mer, en fait, ce sont les services déconcentrés, les services territoriaux du ministère de l'écologie, qui a toute une partie qui s'occupe de la sécurité maritime. Donc nous, on s'inscrit là-dedans, dans la mise en œuvre de ces politiques publiques de ce ministère. Et dans ces politiques publiques, il y en a deux aujourd'hui qui sont au-dessus de la pile. C'est l'adaptation de la signalisation maritime, des aides à la navigation aux besoins actuels des navigateurs. Donc ça, c'est adapter les aides à la navigation, première politique publique. Deuxième politique publique, c'est suppression de tous les produits dangereux qu'on a pu utiliser dans le passé. Et parmi ces produits dangereux, il y a le mercure. Les phares utilisent le mercure pour permettre la rotation des optiques de Fresnel. Donc c'était une idée géniale, sauf que le mercure, c'est quand même dangereux pour la santé et encore plus pour l'environnement.
Et c'est bien de ça dont il était question. Édifié en 1830 et reconstruit en 1950 après sa destruction par les Allemands, il est temps pour le grand phare, comme on l'appelle ici, de se moderniser et de se débarrasser des produits polluants, mais en gardant son aspect d'origine.
On privilégie a priori la solution la plus efficace et la moins coûteuse. Lorsqu'il y a des enjeux patrimoniaux, on va privilégier la solution où on maintient la lentille de Fresnel. Quand il n'y a pas d'enjeux patrimoniaux, on va au plus simple. Ou alors on met des feux à LED et on maintient la lentille de Fresnel quand c'est possible.
Le système optique du grand phare et sa lentille d'époque sont donc maintenus. Et après 8 mois d'études, les travaux sont lancés pour un coût d'environ 50 000 euros. Stéphane Guédon, chef du centre de balisage de la Vendée, nous retrace le déroulement.
Alors sur l'Île-Dieu, on avait le projet de passer donc sur une cuve à bain d'huile, le retrait du mercure. Et aujourd'hui, voilà, on est sur la phase de mise en place. On avait quand même un ensemble de contraintes qui n'étaient pas négligeables par rapport à l'Île-Dieu. Il n'y a pas d'engin de levage assez conséquent pour travailler sur le grand phare. Donc on a fait venir une barge avec une grue venant du continent. On a eu la chance d'avoir la météo avec nous, donc tout est là, pour que cette semaine, il y ait une extraction du mercure, un retrait du mercure, un démontage complet de la cuve et de son pied, pour ensuite faire un montage de la nouvelle, le nouveau pied et de la nouvelle cuve. Et c'est donc une cuve où il y a un roulement dans un bain d'huile. Voilà. Et ensuite, après, le remontage de l'optique.
Mais pourquoi ce choix de cuve à bain d'huile ? Tout droit venu de Brest, Laurent Bernicot, responsable d'études énergie, automatisme et électronique au CEREMA, nous explique comment ce système a été choisi.
On n'est pas les premiers à vouloir les traiter. Hein. Nos prédécesseurs avaient commencé à les traiter. Lorsqu'il y avait par exemple un problème technique, on passait sur des roulements à billes. Sauf que le problème du roulement à billes, conçu de l'époque, ils n'avaient pas la technologie d'aujourd'hui. C'était pas étanche, donc il fallait un entretien assez régulier. C'est pas là-dessus qu'on est parti. Nous, on a développé avec la société Rolix un roulement à billes qui permet de supporter des charges importantes et d'avoir un très faible couple d'entraînement. Ce qui fait que là, par exemple, sur le phare de l'Île-Dieu, moins de 10 watts électriques suffisent à entraîner l'optique en rotation. Ce roulement à billes, pour le protéger, on l'a immergé dans une cuve remplie d'huile. Mais c'est une huile là aussi spéciale. On a essayé de déterminer, on va dire, sélectionner une huile auprès de Shell qu'on espère être l'huile la meilleure possible actuellement. Tout comme le roulement aussi, hein, donc ça permet aux billes du roulement justement d'être protégées finalement de l'air ambiant, donc de la corrosion. Tout ça enfermé dans une cuve, donc on a essayé aussi de reproduire, d'un point de vue patrimoine, de reproduire ce qu'était la cuve à mercure, de façon à ce que d'un point de vue visuel, il n'y ait quasiment aucun impact entre le visiteur qui est passé hier avec sa cuve à mercure et celui qui viendrait aujourd'hui ne verrait peut-être pas la différence. Donc ça ressemble en fait à une cuve à mercure, mais à l'intérieur, c'est pas du mercure.
Mais le mercure, c'est toxique pour les hommes et pour l'environnement. Stéphane Guédon nous détaille le processus de retrait et de traitement de cet élément.
Alors ce mercure, nous on a traité avec la société Curium, qui est dans la région lyonnaise. Donc ce mercure, nous, il y a tout un process de retrait. Donc les techniciens du CEREMA, les deux techniciens du CEREMA, ont créé une zone, une base, on va dire, en haut du phare, avec tout leur équipement, les combinaisons, sur chaussures, les gants, les masques spécifiques pour le mercure, les cagoules et puis les lunettes. Donc ça, voilà, ils ont fait un retrait dans des fûts en verre. 700 ml, pas plus, parce que la masse du mercure étant importante, on ne peut pas faire un retrait complet dans un seul récipient. Ce mercure, et ensuite il part sur Lyon, et c'est la société Curium après qui, elle, va le traiter directement.
Sur les 80 phares équipés de cuves à mercure en France, une vingtaine ont déjà été traités, dont la moitié par le CEREMA, spécialisé dans l'aménagement du territoire et notamment le balisage maritime. Selon Laurent Bernicot, tous les phares se ressemblent un peu, mais ils ont chacun leur particularité.
Alors, beaucoup se ressemblent effectivement, puisque les établissements ont tous été construits à peu près vers la même époque, et les appareils optiques ont été construits aussi vers la même époque. On est là autour des années 1850 jusqu'à 1900. Deux grandes marques existaient en France. Si vous regardez d'un point de vue historique, vous auriez BBT et Sauter Harley. Ce sont des produits même qui se sont diffusés au-delà de la France, puisqu'on en retrouve partout, dans tous les pays du monde, quasiment. On est intervenu, nous, par exemple, au Maroc, et on a retrouvé du matériel français là-bas. Donc on n'a pas été dépaysé pour notre intervention là-bas, pour le démontage ou le remontage. Donc le phare de Lidieu, c'est le deuxième que l'on fait avec les équipes du service des phares et balises des Sables d'Olonne. Il y a 2 ans, il me semble, c'est ça, ouais, on a fait le phare du Groin du Coup, à la Tranche-sur-Mer. Plus petit phare, donc plus simple aussi, moins de hauteur, donc plus simple là aussi pour intervenir. Ici, la spécificité, c'est que l'optique est beaucoup plus grosse. C'est une optique qu'on appelle donc de 0,5 en vertaillé, de 0,5 de focale. Donc ça fait 1 mètre de diamètre pour la lentille. Voilà. Mais c'est du verre taillé, donc ça a été conçu avec une qualité et un montage bien précis. Ce qui fait qu'avec une toute petite source lumineuse, là on est sur une lampe ici je crois de 250 watts, mais on atteint une portée de 24 000 nautiques. Et ce n'est pas une consommation énorme. Le quantum moteur, je vous ai dit, c'est moins de 10 watts. Donc vous voyez, avec 260 watts, on arrive à maintenir le phare sans problème. On peut aussi avoir différents éléments, comme c'est le cas ici, où on avait en plus de l'optique des déflecteurs qui sont ajoutés, une embase un peu particulière avec une ouverture sous crémaillère un petit peu, ou des compas. Ça, on peut avoir des différents systèmes comme ça. Je veux dire que chaque optique est unique pratiquement, puisque par rapport au nombre de chantiers qu'on a fait, et au niveau du CEREMA, on a rarement vu, on retrouve des similarités, mais c'est jamais quasiment l'identique.
Pendant toute la durée des travaux, un feu de secours a été installé sur le grand phare. Car même si les technologies évoluent, Stéphane Guédon nous rappelle l'importance de ces bâtiments.
Un phare, c'est toujours utile, on pourrait se poser la question, c'est vrai qu'avec la nouvelle technologie aujourd'hui, mais malheureusement la technologie n'est pas non plus, il n'y a pas une fiabilité à 100%, ça peut être des problèmes de réception, ça peut être des problèmes d'énergie, donc les appareils ne marchent plus, et le phare lui, il sera toujours là, donc l'usager sera bien content. Le jour où il se retrouvera dans la panade ou dans la tempête, d'avoir la petite lumière qui le guide, c'est surtout ça.
Une lumière qui guide les marins depuis 75 ans grâce à sa signature lumineuse unique, un éclat blanc toutes les 5 secondes. Ce qui illustre parfaitement la devise de l'île Dieu, lumière et refuge en haute mer.